Nous devons conclure aujourd'hui notre série d'études sur la justice. Je vous rappelle que nous avons cherché à cerner l'idée biblique de la justice, puis que la fois dernière, nous avons cherché à repérer comment la justice peut être réalisée, peut-elle advenir dans le concret du réel. Nous n'avons pas eu le temps de traiter tout le sujet. Nous avons vu comment, et c'est le principal, comment Dieu réalise sa justice, la justice rétributive de ses jugements, la justice attributive, la justice débordante et généreuse de sa grâce. Et nous avons considéré en particulier le message de la justification par la foi. Et nous avons, à ce propos, dit certaines choses sur le document signé en commun par les autorités du luthéranisme de la Fédération luthérienne mondiale et celle de l'Église romaine. Nous n'avons pas eu le temps d'en débattre très longuement et nous avons laissé pour aujourd'hui le volet suivant qui concerne notre pratique de la justice, la réalisation de la justice dans notre propre comportement. Nous allons avoir, j'espère donc, le temps d'un débat plus nourri que d'habitude, puisque c'est en fait un morceau de l'étude qui était prévue la fois dernière que nous reprenons. Nous aurons la possibilité de développer un peu davantage que nous ne l'aurions fait, mais malgré tout, nous aurons, je pense, le temps d'un débat assez libre, qui peut revenir sur les études précédentes, si quelqu'un le souhaite. Je crois que nous avons suffisamment présentes à l'esprit les données déjà mentionné, et puis nous devrions aussi prendre quelques minutes pour choisir ensemble des sujets pour les fois prochaines. Comme je vous le rappelle, c'est notre façon de fonctionner. Les sujets que nous traitons, ce sont des sujets que vous suggérez, que vous demandez. Alors si je pense que je peux dire quelque chose, nous nous accordons donc sur de tels sujets. J'ai eu une ou deux suggestions, mais je pense qu'il serait bon que le groupe tout entier que nous constituons puisse prendre quelques minutes vers la fin de la séance pour choisir les sujets des mois à venir. Pour introduire notre travail ensemble, je voudrais faire un peu comme la fois dernière, c'est-à-dire lire plusieurs passages d'un grand ensemble biblique. Nous avions lu plusieurs des fragments de l'Épître aux Romains, qui touche le plus directement notre sujet. Aujourd'hui, je propose de faire la même chose pour le Sermon sur la montagne, pour le grand discours inaugural de Jésus, dans lequel, on pourrait dire, il promulgue la charte de son royaume, ce royaume qui vient avec lui. On a même pu dire qu'il était le royaume en personne, et dont il a dessiné les grandes lignes dans ce grand discours. C'est la version de l'évangile de Matthieu que nous retenons le plus facilement parce que Matthieu a sans doute réuni dans un ordre très, très clair à suivre les principaux éléments de son discours. Jésus enseignait pendant des jours et des jours. Jésus parlait donc beaucoup plus abondamment que ce qui a pu être consigné dans les pages de notre Bible. Dans certains cas, ce peut être un résumé. Dans d'autres cas, il s'agit des formules choc qu'il répétait. Comme c'est un discours très ciselé, Jésus, qui était un pédagogue insurpassable, se servait des mêmes éléments de manière répétée, mais en les présentant chaque fois de façon un peu nouvelle. Et donc, Matthieu nous a donné l'ensemble de son enseignement inaugural sous une forme particulièrement facile à retenir, impressionnante aussi par sa beauté, son équilibre. Donc c'est généralement chez Matthieu qu'on lit. Il y a aussi chez Luc, par exemple. Mais nous recourons donc à l'évangile selon Matthieu, et je lis un certain nombre de passages qui ont trait à la justice. Tout d'abord, dans les Béatitudes, la série de proclamations sur ceux qui sont heureux aux yeux de Dieu, et en fonction de ce que Dieu est en train d'accomplir, Jésus dit au chapitre 5, donc de l'évangile de Matthieu au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors on peut penser aux perspectives finales, à la venue du royaume de Dieu en puissance et en gloire, de telle sorte que tout œil pourra le voir. Nous pouvons penser au rassasiement du moment où Dieu accomplira toute justice pour l'univers. Mais nous pouvons aussi penser à la faim et soif de la justice dans le cours de notre vie et en ce qui concerne notre propre relation à Dieu et notre propre conduite devant Dieu. Il y a une promesse. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Puis Jésus, dans le même ensemble des béatitudes, qui est un ensemble très structuré d'ailleurs, on peut chercher des symétries, Jésus donne comme dernière béatitude, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Une béatitude encore plus paradoxale que les autres, qui semble prendre à rebours tout ce que les hommes pourraient penser. Heureux ceux qui sont persécutés, parce que c'est à eux que le Seigneur réserve son royaume. Et après ça, Jésus n'ajoute pas une autre béatitude, il reprend cette béatitude en quelque sorte en l'appliquant. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on répandra sur vous toutes sortes de mal, à cause de moi, dit Jésus. Parce qu'il peut nous arriver de nous faire critiquer pour des raisons qui sont assez valables et qui sont de notre faute. Alors, c'est à cause de moi, dit Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Puis Jésus revient à son enseignement dans les versets 17 à 20, et là je lis tout ce paragraphe. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, toute petite lettre, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Puis dans le chapitre suivant, je lirai les premiers versets, les cinq premiers versets d'abord. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et Jésus recommande le même genre de conduite, sans ostentation, pour Dieu et non pas pour les hommes, à propos de la prière. Ensuite, il y a une note dans la Bible à la Colombe qui précise le mot « justice », « pratiquez votre justice », désigne ici la pratique des œuvres religieuses chez les Juifs, l'aumône, la prière, le jeûne. C'était en particulier les œuvres de charité qui étaient désignées au 1er siècle par le mot même de justice, traduit habituellement justice. Oui, c'est un usage un peu spécial. Et on retrouve cela dans l'islam. L'arabe est une langue voisine de l'hébreu et on appelle aussi tzadaka l'aumône libre, par distinction de l'impôt religieux obligatoire, c'est le même mot également. Donc, cette recommandation de Jésus. Et puis, encore dans ce même chapitre, les versets 31 à 33. Jésus vient d'évoquer les lys des champs, si merveilleusement vêtus par Dieu, et les oiseaux du ciel qui ne périssent pas de faim. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce sont là les lectures du Sermon sur la montagne, dont j'ai pensé que nous pourrions les faire ensemble. Et maintenant, je pense que nous ferions bien de demander au Seigneur de nous conduire dans notre étude. Est-ce que notre frère Pascal Ayotte voudrait nous conduire dans la prière ?
Amen.
Réalisation de la justice. Ce qui compte d'abord, c'est que Dieu, qui est juste, qui est en un sens la justice lui-même, qui est le juste juge et dont la justice rayonne, réalise sa justice. Mais ce n'est quand même pas le seul message que la Bible fait entendre et que nous devons recevoir. La Bible y insiste, Dieu veut que, comme nous sommes ses créatures en image, il nous a créés en son image et à sa ressemblance, il nous adopte comme ses fils et ses filles, à son image, nous soyons aussi justes, et effectivement justes, qu'à son image, nous sachions pratiquer la justice. Et le texte que nous venons de lire le dit avec beaucoup d'honnêteté, avec en particulier ce verset qui a de quoi nous faire peur, du chapitre 5 et du verset 20 de l'évangile de Matthieu. Si votre justice n'est pas supérieure, ne surpasse pas, n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans l'original, en grec, il y a une double négation. Pas question que vous entriez dans le royaume des cieux. Et quand nous songeons à la concentration de leurs énergies à laquelle consentaient les scribes et les pharisiens pour être vraiment aussi justes qu'ils estimaient possible devant Dieu, leur constant effort pour obéir aux commandements, cette parole est solennelle. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, pas question que vous entriez dans le royaume des cieux. Certains ont trouvé que c'était tellement dur, certains parmi les interprètes, en particulier quelques luthériens, qui se sont dit « mais Jésus fait ça pour nous désespérer et c'est en fait l'usage pédagogique de la loi pour que nous confessions que nous n'y arrivons pas et qu'à ce moment-là, alors, nous n'ayons d'autre recours que celui de sa justice attributive, de la justification qu'il nous accorde par pure grâce dans la foi ». Mais il ne semble pas quand même que Jésus ait en vue ce rôle de l'exigence. C'est à des disciples qu'il s'adresse. Il promulgue la loi interne, le régime de fonctionnement de son royaume. Et la manière dont il insiste ensuite sur l'impossibilité de délier le moindre des commandements et d'enseigner à faire de même, la manière ensuite dont il explique quelle est cette justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens me semble montrer, et c'est l'avis de la plupart de ceux qui commentent ce passage, qu'il s'agit bien d'une justice à pratiquer par ses disciples. Comment la justice qu'il demande surpasse-t-elle celle des scribes et des pharisiens? C'est assez clair dans ce qui suit. Jésus reprend les commandements sur lesquels se fixaient les scribes et les pharisiens, et puis il montre que pour y obéir, il ne faut pas se contenter de la surface ou de la lettre, mais qu'il faut reconnaître l'esprit, discerner la profondeur de l'exigence de Dieu. Vous avez entendu dire que quelqu'un qui commet un meurtre doit être condamné par le tribunal. Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, quiconque lui dit « imbécile », mérite déjà le jugement du tribunal et même la géhenne. C'est un approfondissement du commandement. Jésus nous invite à discerner que dans nos mouvements de colère, en fait, nous sommes déjà en train de vouloir supprimer l'autre. Que c'est le germe du meurtre qui est là. Et qu'on donc on ne peut pas, devant Dieu, se dire « j'ai obéi tant que je n'ai pas vraiment sorti mon P38 ». Non, non, on ne peut pas se rassurer à si bon compte. Il s'agit de se rendre compte de la racine du meurtre, de sa présence dans ces dispositions de rejet des autres qui s'expriment aussi par la langue. Jacques nous dit, si quelqu'un ne pêche pas par la langue, c'est un homme parfait. Il n'y en a pas. Nous bronchons tous, de quelque manière. Et puis la même chose pour les autres commandements. Jésus, chaque fois, approfondit. Jésus dit, il ne s'agit pas simplement de ne pas commettre adultère formellement, mais qu'un regard de convoitise qui s'attache à une femme pour la convoiter, c'est déjà de l'adultère. C'est déjà commencé. Et ainsi de suite. C'est là le message que Jésus fait entendre, qui nous explique très bien en quel sens c'est une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens qui est exigée de sa part. Mais alors, est-ce que nous n'allons pas quand même en désespérer, même si ce n'est pas l'intention de Jésus? Il ne s'agit pas de revenir sur un message qui est central dans toute la Bible, que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné avant l'apôtre Paul, quand il a raconté l'histoire du publicain et du pharisien. C'est le publicain qui se reconnaît pécheur et qui crie au Seigneur pour recevoir simplement sa grâce. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. » Jésus a bien montré qu'il ne s'agit pas donc de faire dépendre notre salut de l'accomplissement de ses œuvres par nous. C'est une condition sine qua non, une justice qui soit bien plus profonde, bien plus vraie que celle des scribes et des pharisiens, mais ce n'est pas le fondement sur lequel nous avons notre titre à l'entrée au royaume des cieux. Le fondement de la justice qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres, et pas seulement de la loi de l'Ancien Testament, mais de la loi en général, de la loi de Dieu. Nous sommes justifiés sur cette base. Donc il ne s'agit pas, à cet égard, du moindre flottement. Seulement, ce que Jésus souligne, c'est que celui qui est justifié par une telle foi, s'il lui est donné de vivre un peu plus longtemps que le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de faire autre chose que de recevoir cette justice. Il a été sauvé. Mais celui qui vit donc un peu plus longtemps sur la terre que le brigand sur la croix, il ne peut pas ne pas pratiquer une justice plus profonde et plus vraie que celle des scribes et des pharisiens s'il est vraiment dans le royaume des cieux. S'il a vraiment accepté la justification gratuite que donne le Seigneur, qui est le fondement, qui nous donne le titre à l'entrée au royaume des cieux, il est sûr aussi, c'est absolument impératif, qu'il pratiquera une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Voilà, je crois, l'enseignement que nous donne ici Jésus et le reste du Nouveau Testament. L'apôtre Paul aussi, dans la première épître aux Corinthiens, par exemple, dit que ceux qui continuent à se comporter comme avant, idolâtres, avares, homosexuels, etc., ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul le dit avec la même netteté que le Seigneur Jésus dans le sermon sur la montagne. Alors c'est une articulation assez étonnante qu'il nous faut bien comprendre. Nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres, mais il est sûr que si cette foi est authentique, il y aura des œuvres. Des œuvres qui impliqueront une justice effective supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Et l'épître aux Romains, nous avions lu divers passages la dernière fois, nous montre comment ça se passe en quelque sorte. Je rappelle le schéma de la pensée que l'apôtre Paul développe dans l'épître aux Romains. C'est très très intéressant à observer. Il commence, chapitre 1er, la moitié du chapitre 1er, après l'introduction, jusqu'au chapitre 3, presque vers la fin, à montrer qu'il n'y a aucune chance de salut pour qui que ce soit sur la terre si c'est par les œuvres, en obéissant aux exigences de la loi, qu'on a son titre pour entrer dans le royaume des cieux. Aucune chance. Qu'on soit juif, qu'on soit d'une origine non juive, de toute façon, ceux qui sont sous la loi, sous ce régime de la loi qui exige qu'on ait obéi au commandement pour être sauvé, la personne n'a aucune chance. Tous sont sous la condamnation. Tous sont déchus du niveau de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ne peuvent pas accéder à la gloire de Dieu. Alors, ayant démontré cela, c'est son premier point, il montre qu'il y a une autre voie. Nous en avons parlé la dernière fois, mais je le rappelle, la voie d'une autre révélation de la justice de Dieu, que Dieu révèle sa justice par l'œuvre de Jésus-Christ, permettant à l'humanité, par la foi, de recevoir une justice cadeau, qui met en règle avec Dieu. Et cela, il le développe, en prouvant que c'est déjà bien attesté dans l'Ancien Testament. Il le développe à la fin du chapitre 3, au chapitre 4. Au chapitre 5, c'est un peu un chapitre charnière. Son but me semble être de dire, donc, si nous sommes justifiés par la foi, nous avons une pleine assurance pour le jugement qui vient. Si Dieu, alors que nous étions encore ses ennemis, a envoyé Christ pour mourir pour nous, nous étions là tout dans nos péchés, nous ne pouvions absolument rien, à combien plus forte raison, maintenant qu'il nous a donc justifiés et qu'il nous a donné tout ce qu'il nous a donné en Christ, nous sauvera-t-il au jour ultime, au jour où la colère contre le péché se dévoilera? Nous sommes assurés de régner dans la vie si nous avons été justifiés par la foi. C'est là, me semble-t-il, le grand message, un message d'assurance qu'il développe au chapitre 5. Puis au chapitre 6, surtout qu'à la fin du chapitre 5, il a eu la formule « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé », alors il doit traiter une objection que beaucoup de gens faisaient déjà de son temps et que les gens ont continué de faire jusqu'à notre époque, quand le message de la justification est proclamé. Mais alors, bon, ben, il n'y a plus qu'à pécher, alors péchons allègrement, péchons pour que la grâce abonde, allons-y. Et alors Paul dit, mais vous n'avez rien compris, absolument rien compris, il est absolument impossible, c'est ce que je disais il y a quelques instants, mais c'est au chapitre 6, donc on le voit clairement chez Paul, dans le développement de l'épître aux Romains, il est absolument impossible que quelqu'un qui a vraiment saisi par la foi le don qui est en Jésus-Christ, continue à pécher comme avant. C'est impensable, et pour l'illustrer, pour montrer à quel point c'est impensable, il se réfère au baptême. Votre foi, vous l'avez exprimée dans le baptême, or le baptême représente une référence à la mort de Jésus. Vous avez confessé que vous vous unissiez à Jésus-Christ mort et ressuscité pour vous. Or, la mort de Jésus, c'est une mort par rapport à toute la sphère du péché. Il a pris les péchés pour les liquider et il est ressuscité en nouveauté de vie. Alors, votre foi, elle signifie cela. C'est absolument impensable que vous disiez, on peut toujours continuer à pécher. Mais c'est que vous n'avez rien compris à la foi. Oui. Donc là, il a montré que si l'on est dans la foi recevant la justice cadeau de Dieu, on pratique effectivement la justice. On doit offrir ses membres comme esclaves de la justice, ce qui est la vraie liberté. Et puis, au chapitre 7 et 8, alors, il approfondit encore les choses et il va montrer comment ce n'est pas quand on est sous la loi qu'on réussit à obéir à la loi, c'est quand on n'est plus sous la loi qu'on réussit à obéir à la loi. C'est le paradoxe de la situation. Celui qui est sous la loi, c'est-à-dire qui considère qu'il faut qu'il obéisse pour être sauvé, il n'y arrive pas, et le seul aboutissement, c'est le désespoir. C'est le cri à la fin du chapitre 7, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais, pour celui qui est délivré du régime de la loi, pour lequel il n'y a plus de condamnation, il n'y a désormais plus de condamnation, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a délivrés de la loi du péché et de la mort, alors, paradoxalement, il y a obéissance à la loi. Tout cela aboutit, dit-il au verset 4, au fait que nous qui ne sommes pas sous la loi et donc sous le régime de la chair, qui est couplé en quelque sorte à la loi, c'est la nature humaine avec ses ressources propres devant la loi de Dieu, eh bien cela aboutit à ce que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Non seulement ne plus être sous la loi ne signifie pas qu'on va pouvoir pécher à sa guise, mais en fait, c'est ne plus être sous la loi qui est la seule façon d'accomplir effectivement la loi, la justice de la loi. La justice prescrite par la loi, elle est accomplie par nous, qui ne sommes plus, pas par ces scribes et pharisiens qui s'efforcent et s'efforcent, eux, ils n'y arrivent pas. S'ils sont honnêtes, ils ne peuvent aboutir qu'au désespoir. Elle est accomplie en nous, qui avons été libérés de la condamnation de la loi. C'est là le paradoxe de la doctrine de la sanctification, pourrait-on dire, dans le Nouveau Testament. Et comment le comprendre? Je pense qu'on peut le comprendre finalement sans trop de difficultés. C'est parce que nous sommes réduits à nos seules forces, avec notre chair, c'est-à-dire notre nature humaine, avec tout ce qui la caractérise, et l'imprégnation de péché, que la loi, nous n'arrivons pas à l'accomplir. La loi est rendue sans force à cause de la chair, dit-il au verset 3. Alors nous avons l'exigence qui est formulée dans les commandements, nous essayons, mais il y a une loi dans nos membres, dans ce que nous sommes, qui fait que nous échouons, nous faisons le mal que nous, dans le désir de respecter la loi de Dieu, nous ne voudrions pas faire, et nous le faisons. Ce qu'il explique au chapitre 7. Pour pouvoir accomplir la loi, il faut une autre énergie que celle qui vient de notre propre nature. Il faut que l'Esprit de Dieu nous communique la force d'agir selon Dieu, la force d'aimer, comme disait Martin Luther King. C'est une expression très belle qu'il utilisait. Seulement, tant que nous sommes sous la condamnation, tant que le régime de la loi est en vigueur, qui implique que nous sommes ennemis, des criminels pour la loi de Dieu, Dieu le juste juge ne peut pas nous donner son esprit. Il y a une barrière. Donc la seule façon pour que nous puissions effectivement accomplir la loi, ce qui suppose que l'esprit nous communique la force de le faire, c'est que cette barrière soit levée, que la condamnation soit éliminée. Donc c'est quand nous ne sommes plus sous la loi qui condamne, que nous pouvons, par l'énergie de l'esprit, accomplir effectivement la volonté de Dieu exprimée par la loi. Vous voyez le paradoxe qui s'explique très bien que l'apôtre exprime au chapitre 8 de l'Épître aux Romains et qui correspond à l'enseignement du sermon sur la montagne. Oui. Une justice qui n'est plus celle des scribes et des pharisiens, qui est une justice produite comme un fruit de l'esprit dans notre vie. Voilà ce sans quoi personne n'entrera dans le royaume des cieux, c'est sûr. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et si l'Esprit de Dieu est là, il produit un fruit de justice. Oui, c'est tout à fait clair et cohérent. Alors ce qu'il faut ajouter aussitôt, c'est que cette justice, si elle dépasse celle des scribes et des pharisiens, parce qu'elle va en profondeur, l'Esprit de Dieu travaille dans notre cœur, reste très imparfaite sur la terre. Il faut à la fois maintenir l'affirmation de l'exigence et reconnaître que nos œuvres de chrétiens produites avec l'aide de l'Esprit, cette justice que nous pratiquons devant Dieu avec son aide, reste encore très, très en dessous de ce qui serait souhaitable, de la pure justice. Le perfectionnisme, je crois, est exclu par l'enseignement du Nouveau Testament. L'apôtre Jean dit dans sa première épître que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous croyons avoir atteint un niveau de perfection sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans la vérité. La situation du chrétien, c'est que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, jour après jour, et les effacer en nous réappliquant les faits de l'œuvre de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est ça la vie chrétienne, et celui qui s'imagine atteindre un niveau de perfection où il n'en a plus besoin, celui-là, il se fait gravement illusion. Et l'apôtre Paul disait aussi, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit cela aux Philippiens. Je cours pour tâcher de saisir, mais il sait bien qu'il n'a pas atteint cette perfection. Il y a, je dirais, deux grandes doctrines perfectionnistes que je suis en train de repousser en affirmant ce que j'affirme et qui est habituel dans l'enseignement évangélique. Il y a la doctrine qu'on a du côté catholique, pour laquelle il y a certaines personnes, les saints. Les saints deviennent une catégorie très à part, alors que dans le Nouveau Testament, les saints, c'est tous les chrétiens. Les saints qui atteignent un niveau de perfection. D'ailleurs, c'est un terme classique dans le catholicisme que conseil de perfection pour ceux qui veulent faire plus que les autres, aller plus loin que les autres, et faire vœu de célibat, par exemple, de pauvreté. Et on appelle ça les conseils de perfection. Il me semble que cet enseignement ne va pas dans le sens de l'Écriture. Et que donc nous ne pouvons pas y souscrire. Et puis aussi du côté, alors cette fois chez les évangéliques, il y a eu le grand prédicateur Wesley, pour lequel nous avons beaucoup d'admiration et de reconnaissance, qui a cru pouvoir enseigner une doctrine de la perfection chrétienne à partir d'une deuxième expérience que l'on ferait dans la vie chrétienne qui marquerait une étape tout à fait décisive de la sanctification. Je pense que son langage a été très malheureux. Je comprends sa motivation. Sa motivation, c'est de fouetter un peu le zèle de ceux qui l'écoutaient. Je le disais encore hier dans le cours que j'ai donné à Lyon, c'est une tentation du prédicateur. De forcer la note, parce qu'il a l'impression que la parole qu'il apporte ne produit pas tout son effet, que les gens restent inertes. Alors, il peut être tenté d'en rajouter. Je pense qu'il y a eu de cela dans la motivation de Wesley et de ceux qui l'ont suivi. Et d'autre part, je pense qu'on peut bien discerner chez lui une ambiguïté, chez lui et ses successeurs. D'une part, il a fait publier, alors qu'il était déjà âgé, et aussi parce qu'il était tellement agacé par toutes les plaisanteries qu'on faisait sur son compte à propos de cette doctrine de la perfection, il a fait publier un entrefilet dans les journaux de Londres pour dire « Je n'ai pas atteint la perfection dont je parle !» Donc, c'est assez intéressant quand même. Et puis d'autre part, chez lui et chez ses successeurs, on voit que la notion de perfection chrétienne a été rabaissé. On a baissé la barre pour dire, oui, le chrétien peut être parfait, mais ça ne veut pas dire qu'il ne commet plus de transgressions, qu'il n'a plus de mauvais désirs. La barre a été baissée, comme la Bible ne la baisse pas. Les mauvais désirs, mais c'est un péché, c'est une transgression du dernier commandement. Nulle part, il n'est suggéré que ce n'est pas un péché. Mais en disant, moi je ne les appellerai pas péché, oui. Il a été un homme de Dieu. Wesley et ses successeurs sont des frères en Christ, hein, sans nul doute, mais je crois qu'ils n'ont pas su restituer l'enseignement exact de la Bible sur cette question. En choisissant d'appeler perfection un état qui n'est pas vraiment la perfection. Au fond, ils ont dû le reconnaître sans le faire d'une manière tout à fait ouverte et claire. Oui. Donc, nous sommes appelés à pratiquer la justice, mais ça restera imparfait, et c'est pourquoi le fondement de notre entrée dans le royaume des cieux, cela demeure la justice de Christ seulement, la justice qui nous est donnée gratuitement, qui nous revêt, celle que nous pratiquons ne suffirait pas. Même si c'est avec l'aide de l'Esprit, même si elle est supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Il faut qu'elle soit là pour montrer l'authenticité de notre foi, de notre attachement au Seigneur, la présence de l'Esprit dans notre vie. Et si elle n'est pas là, alors là, vraiment, nous ne sommes pas dans le coup, mais ce n'est pas la base. Et il faudrait qu'elle soit parfaite pour nous donner le titre d'entrée, et cela n'est pas possible sur cette terre. Voilà en gros ce que... je peux essayer d'expliquer sur cette exigence d'une mise en pratique de la justice. Il y a un rapport, comme ce qui est celui de la justice en général, à la loi de Dieu et aux commandements, avec la loi de Dieu et ses commandements, et ce point encore, je crois, doit être éclairci brièvement. Nous avons eu peut-être d'autres occasions d'en parler, donc je ne vais pas développer beaucoup. Je rappelle que si nous ne sommes plus sous la loi, ça ne veut pas dire que alors la loi n'a plus de pertinence pour nous, que c'est quelque chose de complètement ringard, la loi de Dieu, ses commandements, non, ça ne nous intéresse plus. Pas ça du tout. Nous ne sommes plus sous la loi, mais la loi continue de nous guider, de nous dire quelle est cette justice qu'avec l'aide de l'Esprit, nous devons effectivement pratiquer. Voilà la situation d'après, je crois, l'ensemble du Nouveau Testament. Vous voyez que Paul, celui qui a dit, qui a eu les formules les plus fortes pour dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais il cite toute la loi, il cite le décalogue, il rappelle le commandement au chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, ou au chapitre 13 de l'épître aux Romains, nous avions lu le passage, je crois, la fois dernière. La loi continue d'avoir un rôle dans la vie chrétienne. Et... il me semble utile de discerner ce qu'il en est du légalisme à ce propos. Parce qu'il y a des gens qui vont crier au légalisme si on dit que le chrétien est toujours attentif à la loi de Dieu. Et la prend toujours pour guide de sa conduite. Certains vont dire c'est du légalisme. Non, c'est pas du légalisme. Alors qu'est-ce que le légalisme? C'est une question assez subtile. Et je propose comme réponse, une réponse... pluriel, hein, une réponse à, où il y a plusieurs éléments. Je pense que le légalisme, c'est d'abord d'ignorer la justification par la foi, de croire que pour obtenir le salut, pour avoir le titre d'entrée dans le royaume, il faut pratiquer les commandements, que c'est sur cette base que nous pouvons être reçus par Dieu, agréables à Dieu. Ça, c'est, je dirais, le fond du légalisme. En général, dans les églises évangéliques, on a bien compris ça et on a répudié clairement le légalisme ainsi défini. Je crains cependant qu'il fasse souvent un retour subtil et sournois, plus ou moins déguisé. C'est de nouveau du légalisme de cette sorte. Si nous commençons dans notre vie chrétienne à nous dire, bon d'accord, pour devenir chrétien... c'est la pure grâce de Dieu, c'est le cadeau de la justice de Christ. Mais pour continuer dans la vie chrétienne, pour trouver en Dieu un Père qui me sourit, alors là il faut que je pratique ses commandements et que c'est sur la base de ses commandements que je vais pouvoir trouver un Dieu propice. Là, c'est déjà en fait le vieux légalisme qui revient. Dieu nous veut des pratiquants de justice, mais ce n'est pas sur cette base qu'il nous accueille. Si douloureux et finalement laid, méchant qu'aient été nos échecs dans la vie chrétienne, spirituellement, c'est par la grâce de Christ, par le sang de Christ qui efface nos péchés, que nous sommes accueillis par Dieu. Il nous faut aller tout de suite à lui, et nous sommes sûrs d'être accueillis à bras ouverts par notre Père. Il ne faut pas que nous nous disions « Ah, il faut que je commence quand même par remettre les choses en ordre, moi, hein, que je commence à prouver que je suis quand même un bon enfant de Dieu en faisant ceci, ceci, cela. » Ça, c'est en fait le légalisme qui revient. Ça, c'est un premier élément. Mais il y a un deuxième élément, je pense qu'on peut dire qu'il y a légalisme quand la loi est détachée de son auteur. En fait, c'est très lié au premier aspect. Si je me concentre sur la loi, c'est la loi qui est le moyen de salut, donc j'oublie celui qui est derrière la loi. La loi, ce n'est pas une réalité en soi. La loi, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et c'est devant Dieu, en relation avec lui, que je dois être. Or, il me semble qu'on observe très clairement dans les tendances du judaïsme, bien sûr, mais aussi facilement, comme une déviation de la vie chrétienne, cette espèce d'attention à la loi qui relègue loin derrière Dieu, le Dieu personnel qui veut avoir relation avec nous. Et ça aussi, c'est un piège de légalisme. Et troisièmement, je pense que le légalisme se trahit aussi par une attention aux commandements périphériques, aux choses particulières, un peu de surface. Il y a une attention hypertrophiée pour les commandements qui touchent des points assez superficiels, alors que les exigences principales du Seigneur, elles ne sont pas complètement niées, mais elles sont en quelque sorte comme oubliées. Oh, il faut que je paye ma dîme, alors oui, alors là, et puis que je surveille tous mes revenus. Parce que là, on peut le calculer, on peut maîtriser, on peut espérer y arriver sans avoir le secours spécial de l'Esprit de Dieu. Mais s'il s'agit d'aimer Dieu de tout son cœur, de pardonner vraiment du fond du cœur, alors là, nous n'y arrivons pas, donc. Alors nous oublions un petit peu que c'est ça qui est au centre. Alors, il y a légalisme. Et le légalisme se trahit en quelque sorte lorsqu'il se concentre sur des petites choses périphériques, des affaires d'habillement, des affaires. Et ça, c'est une plaie parfois dans les églises. Bon, franchement, peut-être que je me fais des illusions, je crois que nous avons été assez protégés dans notre église de ce genre de déviation légaliste. Mais ça existe dans des communautés évangéliques. Et nous devons toujours savoir que le danger est là. Qu'il nous faut en être protégés par l'action du Seigneur. Pratique de la justice, individuelle et collective, dans le sens de l'accomplissement par nous des commandements de Dieu, et puis, parce que nous avons une responsabilité dans la cité, pratique de la justice dans la société non chrétienne dans laquelle nous sommes, et où nous avons une responsabilité que Dieu nous a confiée. Et je termine en aussi cet aspect-là de notre pratique de la justice. Il y a pour nous vocation à promouvoir la justice dans le monde où nous sommes. Et il y a la ligne de la justice rétributive qui doit être mentionnée. Dieu a établi les magistrats avec la fonction de réprimer le mal, de punir les malfaiteurs. C'est très clairement l'enseignement du chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Et je crois que c'est une de nos responsabilités de soutenir ces magistrats, éventuellement de leur rappeler si nous en avons l'occasion, mais il s'agit bien sûr de voir quelles ouvertures le Seigneur nous donne, mais de leur rappeler ce devoir d'accomplissement de la justice à ceux qui en ont la charge particulière. Mais de toute façon, il y a beaucoup à faire pour soutenir l'action des magistrats, parce qu'il semble bien aujourd'hui que nous soyons dans une situation de déboussolement comme jamais, où au nom de la justice on dit un peu tout et n'importe quoi. Alors je ne veux pas critiquer des enfants handicapés, de réclamer des dommages et intérêts parce qu'on l'a laissé vivre, parce qu'on ne l'a pas fait avorter dans le ventre de sa mère. Demander des dommages et intérêts, mais c'est une telle, c'est abracadabrantesque, si j'ose dire, et c'est significatif en fait, parce que c'est une façon de s'attaquer à celui qui est en dernière analyse, en dernière référence, le donateur de la vie, l'auteur de la vie. Dieu a institué la paternité parmi les hommes, et qui est tellement salie et défigurée, bien sûr, mais comme une image de la sienne. Et quand il y a des courants, des tendances qui s'attaquent à la paternité, c'est, je crois, secrètement, inconsciemment, la paternité de Dieu qui est attaquée. Donc il y a un travail, je dirais, de soutien, de rappel des grandes lignes de la conscience, aussi par rapport à ceux qui sont établis juges dans notre société. Et puis, il y a la justice attributive, la justice de don et de générosité. La justice qui correspond à cette attribution d'une part des richesses à ceux qui, par le fonctionnement des choses, en sont privés, dépourvus, et parfois aux limites des conditions de vie humaines. Là aussi, je pense que nous avons une responsabilité, favoriser une justice attributive qui soit selon la sagesse de Dieu. Parce que le grand piège, là, c'est une sorte de griserie idéologique, d'égalitarisme. Nous avons vu dans notre première étude que la notion de justice et celle d'égalité ont bien des affinités, mais que le rapport n'est pas si simple. Qu'en fait, c'est une situation difficile à analyser. La justice doit-elle être égalitaire ou non? Oui et non, oui. Bon. Alors nous avons à éviter le piège à propos de cette justice attributive dans notre société, d'un égalitarisme cérébral, disons, à prôner des mesures réalistes, étant donné ce que sont les hommes, comme Dieu les voit, c'est-à-dire dans la vérité. Mais cela sans justifier le cynisme et l'avarice de ceux qui trouvent toujours de bonnes raisons pour ne pas donner aux plus démunis. Et il me semble qu'un guide précieux à ce propos, c'est la loi de l'Ancien Testament. Certes, les conditions ont changé. Certes, Israël était une théocratie, et nos sociétés, je crois, à partir du moment où la Nouvelle Alliance a été promulguée, n'ont pas à être des théocraties avec une religion d'État. Si nous sommes baptistes, nous tenons à le dire. Mais c'est quand même un modèle très intéressant à observer, à étudier, et on peut chercher les transpositions éventuelles pour aujourd'hui. On y voit, par exemple, l'affirmation du droit de propriété et sa relativisation sérieuse. Parce que dans le système israélite, eh bien, le vol est interdit, il y a la propriété reconnue, mais en même temps, il y a la loi du jubilé, le retour des propriétés de patrimoine. Il ne devrait pas être possible d'avoir un enrichissement énorme où quelqu'un possède pratiquement tout et les autres rien. C'est intéressant à noter. Il y a un filet de sécurité, comme on dit, pour ceux qui se trouvent dans une situation trop difficile. Ils doivent pouvoir glaner, ils doivent pouvoir obtenir une part de la dîme. Il y a donc ce souci. Nous l'avons chanté tout à l'heure, la veuve et l'orphelin ont en Dieu leur défenseur. Et à ce propos, j'ai beaucoup apprécié une remarque que j'ai lue une fois, je vous l'ai peut-être déjà citée, mais notre système de sécurité sociale tend malheureusement à déresponsabiliser. C'est une distribution des revenus, et du coup, les personnes qui en bénéficient sont plutôt tentés de ne rien faire, de ne pas faire de grands efforts. Si on veut être généreux, on a l'impression qu'on démobilise. Et le système dans l'Ancien Testament est un système qui est au contraire responsabilisateur. Avec le système du jubilé, c'est le capital, disons les champs, avec lesquels on peut travailler, mais il faut travailler, qui reviennent à la famille qui a eu des malheurs. Donc, vous avez un système qui fonctionne dans le sens de la responsabilisation. Alors, quelles seraient les correspondances aujourd'hui dans une société d'un type différent, avec l'avènement des techniques? Là, je ne suis pas en train de traiter ce point. Mais je suggère que notre pratique de la justice devrait promouvoir des changements législatifs et effectifs dans le fonctionnement social qui prennent pour référence la sagesse de la loi divine que nous avons dans l'Ancien Testament. Globalement, je pense que ce qui ressort principalement des enseignements bibliques sur la justice, c'est cette association de deux radicalités. La radicalité de l'exigence, Dieu ne se contente pas de n'importe quoi, et la radicalité du don. C'est de Dieu et de lui seul que nous recevons la possibilité d'être en paix avec lui, en règle avec lui, couvert de la justice de Christ, et que nous recevons la force de faire le bien à son image, faire le juste à son image. Voilà ce qui me frappe particulièrement, et j'espère que c'est votre cas aussi, que j'ai pu faire passer quelque chose du message de la Bible. Alors maintenant, nous avons donc un moment pour converser, et puis aussi voir quel sujet nous pourrions aborder dans des séances qui viennent. Monsieur Sidamon. Répondre à la première question, est relativement facile. En tout cas, je l'éprouve comme cela. C'est un vieil adage qui, je crois, se trouve chez Cicéron. Il me semble que j'ai vu ça. Donc, on le dit souvent en latin. Summa ius, summa injuria. Maximum de droit, maximum d'injustice. Il s'agit de mettre en valeur le fait qu'en appliquant mécaniquement la loi telle qu'elle est formulée, en respectant le droit, dans certaines situations, on est très injuste. Et c'est ce qui fait que il y a une distinction entre des jugements en droit et des jugements en équité. Même le système judiciaire connaît cette distinction. Je crois que l'idée clé, c'est que lorsqu'on formule des lois, elles ont forcément un caractère un peu général et ne vont pas bien s'appliquer à tous les cas particuliers. Et que le juste qui est équitable et qui a même la vertu, qui s'appelle en grec cette fois, et on l'a francisé epieikeia, on a francisé ça en épicie, ce juge donc qui sera humain, qui tiendra compte des éléments, ne va pas simplement appliquer la lettre de la loi. Au mois d'octobre, j'ai parlé dans un colloque à Marseille, et il y avait des juristes, il y avait un avocat, etc., qui parlait aussi, et j'avais évoqué ce point dans la contribution qu'il m'était demandée. Il a été tout content, il m'a dit très chaleureusement son approbation sur ce point précis. Il y a donc cet aspect de la lettre du droit dans sa formulation qui a une valeur générale mais qui va mal s'appliquer au cas particulier. Et donc un encouragement donné aux juges pour qu'ils adaptent, pour qu'ils soient sensibles à ce qui est le propre des personnes en cause. Mais bibliquement, bon, je pense que ça peut être biblique, hein, que cette équité, par distinction d'une simple application du droit, correspond bien aux lignes générales pour les juges bibliques. Mais il y a un autre aspect de ce que vous évoquez, un excès possible de justice, qui est évoqué dans l'Ecclésiaste. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Ecclésiaste 7, verset 15. J'ai vu tout cela pendant ma vaine existence. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi ne te ruinerais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. Je trouve que c'est d'un discernement et d'une finesse, d'un humour remarquable. Ne sois pas juste à l'excès. C'est l'effort des scribes et des pharisiens à certains égards, qui ne veulent tenir que par leur justice, alors qu'ils se forcent, qu'ils se forcent, qu'ils se forcent. Il n'y a pas de juste. La justice qui nous permet d'être devant Dieu sans être terrorisé, c'est la justice cadeau qui nous est donnée, mais en ce qui concerne notre pratique, il y a l'appel de Dieu, il y a l'exigence, nous faisons diligence, mais nous ne faisons pas d'illusions. Ne tombons pas dans la scrupulite, cette maladie où nous sommes tout le temps en train de vérifier ce que nous avons fait. Ne sois pas juste à l'excès, tu te ruinerais la santé, dit l'Ecclésiaste. Il n'y a pas d'homme qui fasse le bien toujours, ne pêche pas. Accepte cette situation de ta fragilité, de ta faiblesse humaine, qui t'oblige à recourir au pardon de Dieu tous les jours, mais reconnais-le. Et dans tes rapports avec les autres aussi. Ne tiens pas compte. N'essaye pas de savoir si ton serviteur a dit du mal de toi. C'est bien probable, mais voilà. N'essaie pas d'appliquer la justice pour que, s'il a dit quelque chose, qui était faux bien sûr, il soit puni. Rappelle-toi. Rappelle-toi que bien des fois, ton cœur peut reconnaître ça. Tu as maudit les autres. Tu as dit des choses qui n'étaient pas vraiment bien fondées, bien admissibles. Vous voyez, ne sois pas juste à l'excès. Il me semble que l'Ecclésiaste nous le dit très concrètement ce que ça peut signifier. Savoir laisser un peu de mou, par rapport à soi-même et par rapport aux autres. C'est la réponse à la première question. Comme j'avais le texte de l'Ecclésiaste, j'avais l'impression que je pouvais répondre assez facilement. La deuxième question, elle est beaucoup plus difficile. Alors là, d'abord, ça ne m'est pas arrivé. Heureusement quand même, la description que vous donnez, ce n'est pas la description de notre pays. Et je pense que nous n'en sommes pas là. Je ne nie pas qu'on en soit très près dans certains pays. Et alors, comme je ne suis pas dans cette situation, je trouve que ce serait un peu trop facile pour moi de dire il faut de l'héroïsme, il faut que les enfants de Dieu supportent le martyre. Je ne suis pas à leur place. Je pense que Dieu peut susciter des martyrs, des héros, de l'intégrité dans une situation totalement corrompue. Mais, cela dit, je ne voudrais pas en faire une loi. En tout cas, c'est pas à moi que l'autorité en est donnée par rapport à ces situations. Parfois, la situation se pose un peu moins gravement que vous ne dites, mais quand même, déjà, le bakchich, dans des pays où c'est corrompu, où les fonctionnaires ne sont pas payés et ne peuvent s'en tirer que s'ils imposent du bakchiche. Faut-il que les chrétiens refusent? Faut-il que les chrétiens paient comme tout le monde? Je suis content de n'en être pas dans un pays comme ça. Il me semble que ce qu'il faudrait réussir à susciter dans de tels pays, c'est une ligue des chrétiens. Que tout seul, face à un tel système, vraiment on est écrasé, on a l'impression de ne rien pouvoir faire. Mais il me semble que dans des pays où il y a quand même un certain pourcentage de chrétiens, ils devraient pouvoir se liguer pour imposer des niveaux d'intégrité qui finiraient par être reconnus. Parce que c'est quand même frappant, hein, même quand la corruption semble acceptée de tous, que tous les partis la pratiquent, ça finit par leur retomber dessus. Hein. Bon, là, allusion que je ne veux pas développer, mais vous la comprenez. Hein. Donc je pense qu'il faudrait favoriser cela, mais je suis bien conscient que je ne donne pas une réponse complète à votre question hein, en disant ça. Monsieur Tatin?
J'ai lu dans l'avant-dernier numéro du Christianisme au XXe siècle que.
Ou au XXIe, parce que maintenant il publie le.
Que la Macédoine vient d'élire le nouveau président de la Macédoine dans un pays qui est à 90% orthodoxe et d'un chrétien méthodiste. Oui. Et dans l'interview qu'il a donnée au journal, il disait qu'il avait reçu le même appel que la Pentecôte pour sauver la Macédoine. Alors, il va devoir pratiquer la justice au niveau de son pays. Est-ce que il peut faire un commentaire là-dessus?
J'ai vu l'information aussi. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup prier pour lui. Et que j'espère qu'il ne tombe pas dans cet idéalisme sans réalisme que j'ai évoqué aussi. Lorsque le président Carter a pris ses fonctions, ça a été quand même une grande joie pour nous. Je crois qu'on peut dire que le président Carter est un vrai chrétien né de nouveau et qui en a rendu témoignage. Il a fait tous ses efforts. Il a travaillé d'arrache-pied bien plus que les autres présidents, etc. On ne peut pas dire qu'il ait si bien réussi quand il était président. Depuis qu'il est ancien président et qu'il sert de médiateur dans beaucoup de conflits au monde, là il a un rôle très beau et qui semble efficace. Mais comme président, il semble qu'il n'ait pas su prendre le système et que ses bons sentiments chrétiens n'aient pas été si efficaces, me semble-t-il. Donc, j'espère que le président de la Macédoine va avoir vraiment une sagesse selon Dieu. Le dirigeant, il demande d'abord la sagesse, Salomon demandant la sagesse à Dieu. Et certainement, je préfère n'être pas à sa place. C'est certainement une vocation très, très difficile. Je peux signaler, pour revenir à une situation un peu plus française d'ailleurs, mais ce que racontait mon père dans son camp de prisonniers, d'officiers, il y avait un préfet ou un sous-préfet enfin, qui s'était converti pendant la captivité. Alors il a été libéré à la libération, il est redevenu préfet. Et il en avait parlé avec mon père et il lui avait dit qu'il pensait que ça ne pourrait pas durer, qu'il reste préfet. Qu'il serait obligé de faire trop de choses, finalement, contre sa conscience. Alors, il allait résister, puisqu'il maintenant il était devenu chrétien, mais que, du coup, et effectivement, un an ou deux après, il a été éjecté. Donc, ça illustre aussi la difficulté, au moins.